Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Comme tu t'ennuyais, tu te dis que tu allais passer un CAP.
Bah oui, effectivement, j'avais un peu de temps à tuer. Ouais. Mais c'est pas du tout pour faire la cuisine, hein. C'est juste pour apprendre à couper des citrons et des trucs comme ça.
Rassure-nous, tu vas continuer à faire des fromages.
Oui, je vais continuer à faire du fromage, ça c'est clair.
Toi, Florent, t'as un CAP cuisine ?
Non, pas du tout. Non, j'ai un diplôme d'école de commerce, c'est tout ce que j'ai pas grand-chose.
Donc c'est juste ta passion qui t'a réorienté, en fait, c'est ça ?
Mais c'est intéressant, moi. J'aimerais bien faire ça, peut-être, potentiellement.
Ah ouais ?
Faut que je me libère. Je trouve ça cool, en fait.
C'est rigolo, c'est un peu chronophage. Mais
on s'inscrit tous ensemble pour la prochaine rentrée.
Et on va tailler les légumes, les différentes tailles de...
Ouais, tu regardes des petits tutos sur YouTube, tu tournes des radis, des champignons, c'est satisfaisant, c'est rigolo.
Qu'est-ce que tu préfères dans tout ce que t'as appris ? Quel geste, quelle recette classique ?
Ah, la bidoche, j'adore ça. Ouais, j'ai un désosseur, je fais des trucs de fou à des côtes d'agneau et
t'as
tout. Ouais, à la fin, c'est tout beau, tout... Alors que j'aime pas trop la viande, mais du coup, je trouve ça impressionnant plastiquement, le résultat.
Mais toi, tu manges peu de viande. Toi aussi, Florent, tu manges peu de viande.
Ouais, j'en mange plus qu'au resto, à vrai dire.
T'en proposes à la carte, mais t'en manges peu.
Oui, on en mange peu,
Bon, justement.
Ouais.
On passe à table.
Ouais, bien sûr.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique.
Mange ma fille. Avec du bon ?
C'est chaud. C'est chaud.
Présenté par Mina Sundiram et Elvira Masson.
Show 11e déjà.
Ouais, ça fait beaucoup.
Ouais. Alors on souhaitait commencer l'année avec de bonnes résolutions sur le thème du bien manger, au sens de manger bon, sain et responsable. On va voir avec nos invités ce que ça veut dire pour eux. Pierre Coulon, Florent Pillard, on est très heureuse de vous recevoir ensemble. Vous connaissez ?
Non,
c'est jamais rencontré.
Première fois.
Vous êtes content d'être là ?
Ouais, super.
Pourtant, vous n'êtes pas dans le même quartier, mais vous n'êtes pas loin. La Goutte d'Or, le 10e.
Moi, je retrouve un peu une vie depuis 15 jours, mais avant, j'étais tout le temps à faire du fromage, donc c'est pour ça.
D'accord.
Ouais, moi, je suis déjà passé une fois à la laiterie, mais je ne se connais pas personnellement.
Ok.
Vous avez l'un et l'autre fait autre chose avant de devenir toi, Pierre, fromager, et toi, Florent, restaurateur. Vous avez chacun un attachement très fort à la terre. D'ailleurs, vous avez tous les deux fait le pari de faire rentrer en quelque sorte la vie paysanne dans la ville. Pierre, il y a 2 ans, tu as ouvert au cœur du 18e arrondissement, à la Goutte d'Or, ta laiterie de Paris. Première crèmerie-fromagerie parisienne, implantée très localement, où on fabrique sur place.
Fromagerie parisienne, surtout.
Tu dis pas crèmerie, toi ?
C'est ceux qui revendent.
Ah, un crémier revend, ok.
Ouais, crémier fromager, celui qui revend, fromager, celui qui fabrique.
C'est
ça. Alors, nous, on revend un peu aussi, mais la particularité, c'est la première fromagerie à Paris.
C'est ça. Une grande partie des produits est fabriquée sur place.
Ouais.
Certains fromages, pas tous, parce que tu continues à les sourcer chez les meilleurs producteurs un peu partout en France.
J'ai du mal à me passer des autres fromages.
C'est ça. Le Comté, tu l'as pas lâché, quoi.
Bah, non.
Et toutes les spécialités laitières qui sont un peu ta marque de fabrique. Alors ça va d'un labneh à la libanaise, génial, il fait un halloumi d'exception. T'es très 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 passionné par les laits fermentés en général.
Ouais, alors ce qui est drôle, c'est que comme à Paris, on n'a pas de terroir. Moi j'ai trouvé que c'était une richesse de dingue, du coup, de pouvoir s'inspirer de ce qu'on croise, des envies, de tout ça. Et de ne pas être bloqué par, si je m'étais installé en Savoie, à faire du reblochon ou à faire du Beaufort. Donc c'est vrai qu'on se laisse inspirer, puis on est dans un quartier qui est inspirant. Donc forcément, ça nous a emmené vers tout ce qui était le Ventin, quoi, parce que c'est un peu la particularité à la Goutte d'Or aussi.
Et que t'aimes bien aller au Liban.
Et j'aime bien aller au Liban. Il fallait des prétextes aussi.
Tu fais des yaourts aromatisés aux fruits frais qui sont des merveilles.
Ouais.
Le meilleur yaourt au citron du monde.
Ça, c'est clair.
Et aussi le meilleur riolet. Il y a beaucoup de personnes qui disputent le titre de meilleur riolet, mais le sien, il est quand même pas mal.
Ah, il y en a pas mal à Paris. Hein.
Ah ouais, mais non, mais nous, on gagne, ça, c'est clair.
Ah ouais ?
Ouais. Parce qu'on met juste du riz, du lait, du sucre, on met pas de vanille à la con. On n'aime pas les ingrédients
Pourquoi
en trop.
À la con, la vanille ?
Parce que c'est un ingrédient en trop, tu vois, sur ce truc-là. Nous, on fait du yaourt de vanille, là, j'en ai ramené. On utilise nos gousses de vanille après plusieurs fois dans nos confitures et tout, mais on n'a pas envie. On réfléchit toujours quand on fait une recette, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Est-ce que ça a un intérêt ? Finalement, le goût des céréales cuites, le lait, le sucre, quand c'est un beau sucre, du beau riz, du beau lait, ça suffit, mais amplement. simplement. Et les gens lui trouvent des goûts de vanille, alors qu'il n'a zéro vanille.
Comme quoi, ça sert à rien. Psychologiquement.
Ouais, c'est ça, je pense qu'on est conditionné. C'est ça. On a envie de retrouver la vanille.
De retrouver le goût de la vanille, alors qu'il n'y en a pas du tout, quoi.
Quand tu définis ton métier, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à un fromager traditionnel? Tu viens de l'expliquer. Tu n'as pas de terroir propre, déjà, donc tu es très libre, finalement.
Ouais, mais je suis fromager. Mes journées ressemblent vraiment à celles de mes collègues. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je vais faire du fromage, du nettoyage, je vais prendre des acidités, je vais faire mes cultures de ferment, je vais mouler, je vais faire en sorte d'être régulier. Donc finalement, c'est vrai que la particularité, c'est que je le fais en ville, mais on exerce. Moi, demain, tu m'envoies à Vierzon. Non, ce serait une très mauvaise idée. tu m'envoies n'importe où. Je referai ce que je sais faire. Le seul truc, c'est que je le fais rue des Poissonniers, quoi. Donc ça demande des logistiques un peu différentes. Ça fait aussi qu'on a la chance d'avoir une clientèle hyper investie autour de nous, parce qu'ils nous voient bosser le matin. Et puis, comme c'est rare ici, ils nous trouvent dingue, alors qu'on est juste fromager. Oui. Mais sinon, c'est vraiment un métier basique, comme un boulanger ou comme ça reste de l'artisanat, quoi.
Tu affines tes fromages sur place aussi?
Ouais, on affine nos fromages, mais on fait des petits fromages parce que, comme on est les gens qui payons le mieux le lait en France, on n'a pas intérêt à avoir des fromages trop vieillis. Puis après, on trouve que ça se fait bien ailleurs. On n'aurait pas les mêmes rendements et ça prendrait beaucoup de place. Et Paris, c'était aussi le défi de jouer avec la place. Nous, on travaille dans 45 mètres carrés. Donc c'était aussi le deal. De toute façon, on était fauchés, on n'avait pas une thune. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas prendre 200 mètres carrés dans une grande rue parisienne. On a pris 45 mètres carrés à la Goutte d'Or. Et donc ce défi de place fait qu'on ne va pas aller sur des choses très vieillies. Elles, on va aller les chercher ailleurs, quoi.
C'est ça. Florent, toi, tu as un parcours somme toute classique, finalement.
Devenu classique,
quoi. Tu es banquier à Londres. Et comme à peu près, j'ai l'impression, tous les gens qui bossent en banque ou en finance, un jour tu en as marre et tu décides de tout plaquer pour te lancer dans un projet plutôt ambitieux et surtout qui colle plus à tes convictions finalement. Tu te lances dans un périple de plus d'un an, il me semble, à travers toute la France, à la rencontre de paysans, de producteurs, agriculteurs. Et finalement, en janvier 2017, tu ouvres Les Résistants. C'est un restaurant engagé, voire même militant. Et pour ton actu, en fin 2019, L'Avant-Poste, ta seconde adresse, toujours dans le 10e arrondissement. C'est une sacrée aventure, non?
Ouais, c'est une sacrée aventure. C'est vrai que mon parcours est devenu classique, hein, finalement.
J'ai l'impression qu'on rencontre beaucoup de profils.
On est tous un peu en crise de sens, là. On suit le bon parcours dicté par un peu socialement jusqu'aux études. On commence avec un premier salaire parce que finalement, on est endetté. Donc, on commence avec un premier boulot qui nous verse un salaire qui nous permet de rembourser notre prêt étudiant. Puis après, on est repris par notre passé et par le sens qu'on veut donner à notre vie, plus que les générations précédentes, je pense. Et donc, moi, à l'été 2015, juste avant 30 ans, j'ai décidé de tout plaquer. Je suis parti un an et demi, ouais.
T'es revenu en France ?
Non, j'étais déjà revenu en France. Hein. Moi, j'ai bossé à Londres un an et demi et je suis revenu en France en septembre 2012. D'accord. Et j'ai quitté mon boulot à l'été 2015.
Oui, t'as pas tenu très longtemps à Londres. Hein.
Non. J'ai vraiment détesté Londres. J'ai vraiment pas aimé cette ville. Mais j'en ai pas profité, quoi. Je faisais que bosser. Oui. Donc
là, tu plaques tout pour entamer un voyage.
Ouais, exactement. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai mon enfance, je l'ai pas mal passée en Normandie, près d'Alençon. Et tous mes potes là-bas étaient fils d'agriculteurs, quoi. Donc, j'étais dans le champ toute la journée. J'aimais beaucoup aller au resto et puis quand j'ai quitté mon boulot, je me suis dit que j'allais essayer de faire un truc qui avait du sens pour reconnecter le monde rural qui me paraissait complètement déconnecté des cuisines parisiennes. Et après, je suis parti un peu bien en tête et ça a duré un an et demi. Je suis parti une première fois en Normandie. J'ai rencontré 5-6 éleveurs et puis après, un an et demi sur la route à travers la France, parce que j'ai très vite vu qu'il y avait une énorme richesse dans chaque région. Et comme tu l'as dit, Pierre, en fait, vu que t'es à Paris, t'as pas un ancrage territorial hyper fort, donc je trouvais ça intéressant de montrer en fait l'immense richesse agricole et gastronomique qu'on avait dans tout le pays. Et donc c'est pour ça que là typiquement j'ai ramené des choses du Gers, de Corse. Donc ça c'est de la ventrèche plate de Port-Gascon, du noir de Bigorre.
Génial. Ça me fait très envie.
De Julie et Pierre Gros qui sont à Montgauzy dans le Gers. Et qu'on fait partie des gens vraiment investis dans l'AOP Noir de Bigorre. Et là, il y a des petits kumquats. Je trouve ça toujours marrant, les kumquats, parce que tu peux croquer dedans. C'est hyper sucré.
Mais on
ne goûterait
pas un petit morceau de ventrèche avec un petit morceau de fromage frais à la citron confit harissa de Pierre?
Oh là là.
Allons-y, non, on va passer.
Et tu nous as amené à boire aussi.
Ouais. Je me suis dit, j'ai essayé de prendre un truc qui passe un peu partout, entre la ventrèche, les agrumes, et puis je savais que Pierre allait
nous ramener. Tu savais qu'il y
aurait du lait. Exactement, donc j'ai pris un blanc.
La Désirée, oui.
La Désirée 2014 de Renaud Guettier.
Oui, donc, que tu sers dans ton restaurant Les Résistants.
Et donc ça, c'est un chenin qui a été élevé 2 ans. Vous allez voir, c'est hyper minéral. Renaud Guettier, c'est un mec qui a 6 hectares, qui est un des derniers vignerons à être en polyculture.
C'est quoi polyculture?
C'est-à-dire qu'il a plusieurs cultures. Il ne fait pas que du vin, il fait aussi des céréales.
Mais comme on faisait autrefois, avant qu'on se mette à faire n'importe quoi.
Et il a eu longtemps des vaches. En fait, il a hérité de l'exploitation familiale et il n'a pas voulu tout rayer d'un coup.
Des vaches laitières ? Il produit un peu de lait ?
Non, avant, il faisait de la laitante et il a arrêté. Mais là, il fait toujours céréales.
Et il est en appellation quoi ?
La plupart de ces cuvées sont en vin de France. Hein. Il est dans le nord de la Touraine. Et voilà, c'est un vigneron qui fait partie de l'association Saint.
Saint.
Donc, voilà.
D'accord.
Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, pas du tout.
C'est une association de 12 vignerons qui travaillent sans aucun intrant. Donc sans sulfite, sans rien.
Fais tourner la ventrèche, Mina, s'il te plaît. Ouais.
Et il prouve aussi que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent des vins nature, il prouve que tu peux les faire vieillir. Quoi. On ouvre des 2011, des 2009 de chez lui. C'est incroyable.
On t'écoute en fait, mais on mange en même temps.
Ok. C'est bon la ventrèche alors.
Attends, donc là on a, si on résume, on a une ventrèche de porc noir de Bigorre qui fond comme du beurre dans la bouche.
Le gras, c'est la vie.
Qui est noisetée. Voilà.
C'est fou. Qu'un peu de poivre.
Ouais, du poivre de Sarawak.
Un petit verre de chenin.
On est bien là.
Et par ailleurs, Pierre, que mange-t-on ? Deux créations nocturnes ?
Ouais, c'est le test.
Ce Pierre, quand il ne révise pas ses cours de CAP, il travaille la nuit, il cuit des betteraves, il fait du fromage
parce
à n'importe
alors,
quelle heure.
Nous, on travaille avec trois producteurs de lait différents. Et là, on a chez Serge les misbahs qu'on repris sur les chevreaux, donc il a un peu plus de volume. Et on voulait bosser le chèvre frais, même s'il faisait froid encore. Et c'est toujours un peu le défi de se dire, allez, on va le faire en mode saison, avec des choses qui nous inspirent. Donc là, il y en a un chèvre frais où on a mis des carottes, harissa, cumin. Et on a fait un genre de pickle de citron à la harissa.
Mais c'est bon, ça.
Bah, je crois que
la fraîcheur du truc, tu l'as pas goûté, c'est crash test là.
Ouais, on le tentait comme ça. Et après, on a fait un truc avec les betteraves, encore une fois, pour rester sur la saison. Betteraves à tarte, noisettes torréfiées, sirop de date, quoi d'autre? De l'ail.
Sublime.
Voilà.
Ça, c'était création de cette nuit.
Ouais, bah parce qu'en fait, à chaque fois, nous, quand on vend du fromage, on vend les classiques, mais on a aussi vachement habitué nos clients à se pointer chez nous, à ce qu'on ait mis des produits en avant. Et c'est vrai qu'il y a toujours ces histoires de saison. En ce moment, les gens viennent prendre des raclettes, des reblochons, mais on a aussi les réalités de nos éleveurs. Serge, il s'est pris 90 chevreaux en plus, donc il a du lait en plus à vendre. Et donc, c'est les moments où nous, on veut arriver aussi avec un peu de fraîcheur, de légèreté. Et puis, encore une fois, on a été un peu inspiré ces derniers temps par deux, trois ingrédients qu'on nous a ramenés, ou comme je vais souvent au Liban, bah là, on nous a ramené du zatar, notamment, c'est l'occasion de jouer avec. On a nos voisins à côté qui font des légumes, on se dit bah ouais, ça peut aussi marcher sur une aromatisation en faisant des choses simples. Et le citron, c'est la passion du moment, le citron. Donc,
Ça veut dire que tu te fondes quand même beaucoup aussi sur l'activité de tes éleveurs. Il a des chevreaux en plus, donc toi, tu travailles autrement.
Nous, on doit aussi se maintenir pour passer leur volume de lait, indépendamment des semaines, indépendamment des vacances qu'il y a dans 15 jours, indépendamment de tout ça. On s'engage quand même à une quantité sur l'année, donc c'est à nous d'être intelligents aussi pour avoir des choses à vendre.
C'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que tu t'engages auprès de tes éleveurs à leur acheter l'intégralité, ou une grosse partie de la production laitière.
On prend quasiment la moitié de ce qu'ils produisent à chaque fois.
C'est hyper sécurisant pour eux.
Ouais, bah oui.
Oui, puis nous, comme on paye, par exemple, Serge, quand il vend son lait à l'industrie, il vend 55 centimes. Moi, je le paye 1,50 €. Donc, on est le revenu qu'ils attendent. Clairement, la plus-value qu'on crée. Parce qu'au pire, la laiterie va le prendre, ce lait-là, si on ne le fait pas. Et pareil pour l'élevage. Donc, du coup, comme c'est des gens qui, comme on les payait mieux, ont créé des emplois, ont créé tout ça, bah, ils ont aussi d'autres rendez-vous. Donc, nous, on se doit d'être là. Donc, on réfléchit perpétuellement à comment créer l'événement autour du fromage, autour de tout ça.
Un petit mot sur les chèvres, parce que c'est quand même ta première passion. Tu étais éleveur de chèvres en Loire-Atlantique.
C'est ça.
Puis tu as quitté la ferme pour travailler...
Alors, je suis venu à Paris.
Pour travailler chez Androuet, qui est une grande maison de fromage.
Pendant 2 ans. Donc, je suis passé du mobil-home, toilette sèche, 200 euros par mois, à un gros salaire, un peu comme ta période londonienne, mais c'était à Rungis.
C'était pas la Sverti, c'était chez Androuet.
Ouais, c'était Androuet et Rungis. Et du coup, moi, j'ai souvent fait des changements. Et du coup, et après la laiterie, Donc
comment à l'origine t'avais choisi ton métier d'éleveur de chèvres ? Il y avait un atavisme familial, il y avait...
Je pense que quand j'étais en psycho, je voyais que c'était
quand
même un peu. Mais alors, j'ai très peur parce que là, en plus, j'ai 37 ans, donc souvent, toutes les décennies, je révolutionne un peu ma vie. Et là, je me dis merde, dans 3 ans encore, ça me fatigue. Puis j'ai pas d'idée là.
Il va devenir banquier dans la City.
Oui, peut-être. Ouais, un retour. J'ai déjà fait le retour au gris, tu vois. Donc je sais pas.
C'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu passes de la nature au gris.
Je suis un peu perplexe en ce moment. Je sais pas trop ce que je vais faire. Donc du coup, j'étais en psycho et il y avait quand même ce truc qu'on te balance tout le temps. Tu vas finir par élever des chèvres. Moi, en plus, à l'époque, j'avais les cheveux là, orange. Je pense que j'avais un poncho.
Un sarouel.
Oui, forcément, mais j'étais près de Nantes, tu sais, je faisais des week-ends à Rennes et tout, des choses.
C'est le parvis de la gare.
Voilà. Donc, je pense que j'ai dû faire des bolasses aussi sur la plage. Mais c'était ma jeunesse. Et il y avait ce truc, on me disait toujours, tu vas élever des chèvres ou tout plaquer pour élever des chèvres. Et en fait, quand à un moment, j'avais possibilité de faire un M2 en psycho et j'ai commencé à me poser des questions sur l'agriculture. Et au début, je me posais des questions sur la cuisine. cuisine. J'ai fait une journée dans un restaurant avec mon sens de l'autorité. Ça l'a pas fait. Je me suis barré. Et du coup, je suis arrivé dans un CAT qui aidait des gens autour du légume avec les chevaux. Et je me suis dit, putain, c'est trop bien comme idée. Et c'est mon prof de psycho à l'époque qui m'a dit, il va falloir choisir entre vos études, parce que je venais d'avoir une bourse sur un sujet qui était hyper glauque en plus, et le fait d'élever des chèvres. Mais à aucun moment, je pensais encore que j'allais élever des chèvres. Et finalement, je me suis retrouvé en stage et ça va scotcher.
Et t'as aimé.
Bestiale. Ouais, ouais. J'ai trouvé que c'était un parfait mélange entre, je sais pas, la perfection, la connerie, la gentillesse. Je trouvais qu'il y avait tout ça. Et puis le fromage, parce qu'à l'époque, moi, j'ai un milieu qui n'est pas non plus hyper riche, quoi. Donc, je bouffais du Camembert Président, du Philadelphia, du Roquefort Société. Mes parents s'acharnent encore à me mettre ça en repas de Noël, d'ailleurs, quand j'arrive avec les fromages. Bah, c'est les parents, c'est
tu le prends comment, toi?
C'est la famille. C'est toujours un peu. Ouais, non, c'est drôle, ils lâchent pas. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que c'est venu.
Florent, toi, dans tes restaurants, le fromage, ça a quelle part?
Ça a une part complètement entière. On avait commencé au Résistant en faisant. Plein d'assiettes de fromage à partager, c'est un truc qu'on a pas abandonné au bout d'un an. Donc là, ça vient entre le plat et le dessert, quoi. Et puis nous, on bosse avec une quinzaine d'éleveurs partout dans le pays, sur plein de fromages différents. Quoi.
Ouais, sur des jolis systèmes, j'ai vu, il y a pas mal de noms qu'on a en commun. Du coup, notamment, je voyais la ferme de Valcivière, des produits comme ça.
Ouais, la ferme de Valcivière, là ce matin, on a reçu la ferme de Lésia, je sais pas si tu connais.
Non, c'est dans le Béarn, ça?
Non, c'est dans le Haut-Jura, faut que t'ailles les voir, c'est vraiment magnifique. Et eux, ils font du marbré, donc c'est du morbier, mais hors appellation.
D'accord, ah oui,
et
ok.
Du gruyère, et, ouais. Et ils font ça avec des vaches Villard de Lans.
Et oui, d'accord, j'en avais entendu parler.
Alors, justement, Florent, comment tu fais pour te fournir en direct auprès des paysans? Ça doit être tout un système colossal, non?
Ça a été compliqué à mettre en place, parce que finalement, au Résistant, la première année, on n'a pas refait le décompte, mais on avait bossé avec 120 paysans juste sur la partie cuisine, quoi. Sans compter évidemment le vin.
C'est pas hyper compliqué à gérer? Parce que tout le monde aimerait faire ça.
Hein, oui, ouais, en fait, c'est pas compliqué. Ça, je t'avoue que c'est passionnant, quoi. C'est juste des coups de fil que tu passes au gars. Après, une fois que tu sais comment les systèmes logistiques fonctionnent.
Et donc, t'es jamais en mode commande à 2 du mat. Allô, bonjour, pour demain, je voudrais. Non, ça n'existe pas, ça.
Non. Non, si tu veux, par exemple, les maraîchers, on bosse avec 6 maraîchers. Ils savent exactement ce qu'on veut. De toute façon, on fait en fonction de ce qui sort du champ. Donc, on n'a pas besoin de les appeler non plus toutes les semaines. On les appelle surtout pour échanger et leur faire des retours. Donc, ça, déjà, ça demande pas énormément de boulot. Pour la viande, on a des calendriers d'abattage sur 2 mois. C'est dur de dire calendrier d'abattage. C'est un peu glauque. Et en fait, on appelle les éleveurs. Nous, on bosse toujours une viande par une viande. Donc, par exemple, on va avoir une vache. On va la séparer en deux entre les deux restos. On va abattre une vache entière. Et donc, on connaît à peu près tous les abattoirs maintenant.
Pardon, j'ouvre une parenthèse sur la viande, mais c'est ça qu'il faut retrouver. Mmh. Il faut retrouver l'usage un peu immémorial d'une vache. On en mange l'intégralité. On n'achète pas.
C'est pour ça que c'est cool que tu débites de la bidoche en CAP, quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte que.
Mais j'ai des plats.
On mange pas
aussi,
que des côtes de veau.
Non.
Tout.
Ah ouais. Et puis en fait, finalement, très honnêtement, c'est pas hyper compliqué.
Mais nous, consommateurs, on a perdu l'usage de ça. On ne mangeait que de la côte de veau pendant 6 mois.
T'as pas de calendrier d'abattage?
Non, on devrait tous avoir un calendrier d'abattage. D'abord, on devrait tous comprendre un peu les saisons, on devrait tous comprendre ce que c'est qu'un animal.
Et si tu voulais vraiment manger de la bonne viande de bœuf, tu la mangerais pas à n'importe quel instant. Tu la bats pas en hiver, tu la bats plutôt au moment où l'herbe, où il y a une repousse d'herbe grasse, où il se refait un peu de gras, plutôt que. Ça dépend, c'est toujours pareil. Après, c'est des systèmes de production qui sont hyper différents. Nous, on essaye d'avoir des vaches typiquement qui sont pas finies aux céréales et qui ont vu vraiment que de l'herbe et du foin. Et donc, vu que t'as pas l'aide des céréales pour redonner du gras et un peu de consistance à la bête, on abat surtout du bœuf dans la période où l'herbe est riche, quoi. Donc printemps, été.
L'un comme l'autre, ça n'est que du fournisseur qui travaille en éco-pâturage?
Alors oui, moi ça fait partie de mon cahier des charges. Donc la bio, pas sur le brebis, parce que Jean-Baptiste, il est pas en bio.
C'est qui,
mais
Jean-Baptiste?
C'est mon éleveur de brebis dans le Béarn. Mais il a 150 brebis, c'est un tout petit système. Donc il a pas. Puis, de toute façon, il n'y a pas de collecte de lait bio là où il est, donc il n'a pas fait ces démarches-là. Mais sinon, ouais, nous ils sont en bio, ils sont sur des systèmes pâturage. Voilà, sur longtemps dans l'année, parce qu'ils sont en Bretagne. Donc ça rentre 2 mois l'hiver et voilà, quoi.
Ouais, après il y a des saisons là, pendant lesquelles c'est pas possible qu'ils soient dehors. Tu vas en Normandie l'hiver, s'il pleut beaucoup, ils vont détruire les pâturages, donc ils sont obligés de les rentrer. Là tu vois la ferme de Lésia, ils sont à l'intérieur 4 ou 5 mois parce qu'il neige.
C'est la montagne, logique.
Voilà, c'est la montagne, donc faut pas non plus être dogmatique, faut dire faut qu'elle soit tout le temps dehors. Mais c'est important ce qu'elle mange. En fait, moi, quand j'ai fait le boulot et que je suis parti, je voulais essayer de recomprendre comment chaque produit était fait. Donc, tu prends, par exemple, un camembert. T'essaies de voir, en fait, de la manière dont la prairie est tenue. Déjà, le type de prairie, la biodiversité que t'as dans la prairie, la race de vache qui a été choisie, le nombre de traites, les ferments, t'en parlais tout à l'heure, c'est un gros sujet, les ferments, c'est un truc qu'on a perdu dans beaucoup de régions en France.
Ils achètent les ferments. Ils achètent un labo.
Un peu, ouais. Les nouveaux débats que tu as sur les fromages nature, comme ça arrivait sur le vin naturel. Après, ça, c'est hyper compliqué, même aujourd'hui.
C'est hyper compliqué.
C'est des gros dossiers.
Un fromage nature, ce serait un fromage sans aucun intrant.
Sauf le lait et la présure. Et alors, c'est hyper casse-gueule, ça a aussi ses risques. C'est le début. Alors, c'est drôle parce que tout le monde nous parle que de ça en ce moment. Puis nous, on est là, tu sais quoi, déjà faire du fromage à Paris, en payant bien le lait en France, en bio. On trouve
en salarié, en désemployé.
Il y a les gens qui sont là, et ils faisaient pas de fromage nature. T'es, non, on n'a pas assez de journée.
J'ai l'impression que c'est moins avec le vin. Oui, c'est ça.
Ouais, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant. C'est le début pour notre profession aussi. Nous, on fait des essais. On a fait des essais, des grosses foirades aussi. Ça demandera plus de travail que.
C'est pas la même complexité sur le fromage que tu fais. C'est pas la même complexité sur une pâte pressée que sur un camembert.
Forcément. Puis c'est beaucoup d'acteurs. Nous, on se fait aussi un truc de risque sanitaire. C'est-à-dire que. On est quand même une profession qui est mise en avant dès qu'il va y avoir le moindre difficulté, notamment parce qu'on a aussi des industriels qui sont mis en difficulté ces derniers temps. Nous, on fait des autocontrôles tous les mois. On tremble suffisamment pour se dire, il y a des pistes de développement, des choses qui sont assez rigolotes. N'empêche qu'à la fin du mois, faut payer les producteurs de lait, les salariés. Nous, on n'est pas que en fromage nature. C'est dans un coin de notre tête.
L'un comme l'autre, vous parlez beaucoup de celles et ceux qui vous permettent de faire votre travail. Pierre, on parle beaucoup des éleveurs qui produisent le lait dont tu te sers. Florent, on a compris, tu es aussi au plus proche de la terre et des producteurs, parce que tu es en circuit court complet. Ils sont tous cités à la carte, tes producteurs, mais pas uniquement les producteurs, les éleveurs, les maraîchers, mais tout ton staff aussi. Il y a toute une démarche super holistique.
Il n'y a personne d'anonyme. Les résistants, ça s'appelle les résistants, parce qu'on parle des producteurs. Alors, à la carte, il n'y en a qu'une toute petite partie, parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Sur le site internet, mais parce qu'on peut pas mettre tu vois chaque jour je pense que t'as au moins 12-13 producteurs qui nous ont permis de faire le menu du jour donc on peut pas mettre tout le monde la petite description qu'il y a derrière on peut pas la faire pour tout le monde. Nous on trouve ça hyper important et c'est pas de la pédanterie que de mettre le nom ou par exemple à notre
on
carte
on te l'a reproché.
Ouais, il y a des clients qui trouvent ça pédant, qui trouvent que c'est du name dropping et tout, comme le fait de à l'avant-poste
Pas vraiment parce que c'est des noms qu'on connaît pas en général.
Mais en plus en quoi ça les dérange?
Je sais pas.
Si ça t'intéresse pas, à la limite,
j'ai appris à plus trop lire tous les commentaires parce que sinon tu t'en sors pas. et après, on met aussi le nom de toutes les variétés, toutes les races animales. C'est hyper important parce que un de nos combats majeurs, c'est la biodiversité. Les ferments, c'est de la biodiversité bactérienne. C'est fondamental, c'est la biodiversité qu'on voit le moins finalement, mais qui est importante. Et après, le but de l'avant-poste, typiquement, c'était de parler des semences paysannes et donc de parler de toutes les variétés qu'on peut trouver. Il n'y a pas une courgette, il y en a 36 variétés, elles ont tout un intérêt différent. Donc, mettre tous ces noms sur ce qui est fait, c'est hyper important parce que le produit, la ventrèche que vous avez de Pierre et Julie Gros, ce sera jamais la même ventrèche que celle du voisin. Et donc, c'est important de l'identifier.
Ce que tu racontes, c'est quand même une forme de militantisme du quotidien.
Assumé.
On a avec Mina une tradition dans l'émission, c'est qu'on fait des petits quiz ou des petits questionnaires. La première question de notre petit jeu, c'est plutôt notre truc.
Est-ce qu'il y a un truc à gagner?
Non, il n'y a rien à gagner à part notre reconnaissance éternelle. La première question est complètement dans l'axe de ce que tu disais. Florent, tu as la parole. Tu es plutôt José Bové ou Pierre Rabhi?
Putain, elle est dure celle-là. Je suis plutôt José Bové parce que je suis très Confédération
paysanne.
Ouais.
C'est ton côté banquier de la City, ça.
Ah non, justement, pas du tout.
Non, mais justement, non. T'es très conf paysanne, pourquoi tu peux préciser un peu?
Parce que je trouve que c'est des. Vraiment, l'agriculture qu'on prône au-delà de l'agriculture biologique, c'est l'agriculture paysanne. Je trouve que, c'est une des confédérations qui la défend. Alors, je suis pas adhérent donc, ils traitent de sujets. On a beaucoup de paysans avec qui on travaille qui sont actifs à la conf. Donc, c'est, quitte à choisir.
Et toi, Pierre, même question?
Clairement, Beauvais aussi, par rapport à tout le travail de syndicats. Et c'est rigolo, ces syndicats, on en parle peu. Alors, on parle de la grosse bête, là, la FNSEA. Ouais. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai déjà rencontré un producteur de qualité qui était à la FNSEA. Je sais pas. Peut-être que c'est moins les sphères dans lesquelles je traîne. Par contre, effectivement, moi aussi, tous mes producteurs sont en lien avec la Confédération Paysanne, avec le maintien de l'activité au pays, avec la qualité. Je me suis pris la gueule avec eux quand j'étais paysan parce que c'est le moment où ils se positionnaient pas sur les OGM. Et c'était la prise de bec. Maintenant, ils ont pris une position, évidemment, à l'encontre des OGM. Et je pense que quelqu'un comme Beauvais, quoi qu'on en dise, fait partie de ces gens qui ont su médiatiser ce mini-syndicat qui intéresse personne. Parce qu'encore une fois, on parle de bouseux, c'est ça aussi. On parle de paysannerie, d'un sujet qui n'intéresse pas les gens, alors que c'est les gens qui nous nourrissent. Et du coup, c'est vrai que ce gars-là a quand même su arriver en devant. Puis il a démonté un McDo, moi j'ai trouvé ça.
Ok. Question suivante. Alors, on commence par Pierre.
Ouais. Ok.
Plutôt labneh ou halloumi?
Ah, halloumi. C'est dur. Ça, ouais, c'est hyper dur. Eh ben, en fait, labneh. C'est pas ce que je préfère faire parce que c'est assez basique comme fabrication et tout, mais j'en bouffe tout le temps.
C'est quoi la fabrication?
C'est un yaourt égoutté, en fait. Hein. C'est un yaourt que tu vas faire égoutter pendant environ 24 heures
tu
et tu sales à
1%. Ouais. Tu mets ton yaourt entier, j'en fais parfois, dans une petite étamine. Tu l'accroches à ton robinet dans la cuisine, voilà. Ça s'égoutte, et le lendemain, tu le laisses tremper.
Bah,
c'est
à l'avenir.
Je sais que j'ai pas envie de le faire goûter, j'ai trop de trucs, mais je fais passer quand même.
Oh là là.
Moi, je veux bien goûter.
Oh là là.
Et
là.
Le halloumi, c'est rigolo parce que c'est un produit que j'aime bien faire, mais c'est pas celui que je mange le plus. Alors que ça, j'en tape un pot en deux jours. Quoi.
Le halloumi, c'est un fromage chypriote à l'origine.
Ouais, du fromage levantin. Ouais.
Levantin, qui est composé d'un mélange de.
À la base, c'est brebis chèvre, nous on le fait en vache, uniquement.
On peut le manger cru comme ça, mais c'est un peu squink-squink.
Ouais, snacké, quoi.
C'est plutôt snacké. Et tu m'as montré tout à l'heure une photo de frites de halloumi aux attards. Mais un truc de ma boule.
Mais oui, c'est le traiteur saisonnier avec qui on travaille qui fait ça. C'est la bonne idée.
C'est une bonne tuerie.
Ouais.
Et
le
labneh, il est dingo.
J'ai un client qui m'a dit que c'était aussi bon que du Philadelphia. J'étais assez content.
Je sais pas, pas vraiment.
Pour l'avoir goûté dans un avion l'autre jour, c'est assez bon finalement. Et je me dis, au moins, voilà.
Donc on pourrait très bien faire un cheesecake avec ce labneh, en fait.
Ouais, je pense. Total, clairement.
Complètement.
Une question pour Florent. Plutôt cochon Berkshire des Côtes d'Armor ou veau fermier de Villard-de-Lans? La meuf qui a bien potassé le menu, tu sais.
Veau fermier de Villard-de-Lans parce que c'est une race que j'aime beaucoup et c'est une race, comme j'ai dit, mixte, qui fait la viande. Et après, le cochon Berkshire...
C'est marrant, c'est un cochon britannique qui a été introduit en France par un éleveur qui avait envie de
Exactement. Cette race-là, quoi. C'est un cochon qui est originaire d'en face de chez lui, donc Southampton. Et en fait, on parle de races locales en France.
Ouais.
Mais en fait, la plupart des races locales françaises sont issues de croisements entre des races anglo-saxonnes et des races françaises.
Ouais.
Et notamment le port de Bayeux, l'un des deux parents, c'est le cochon Berkshire. Et c'était le premier cochon qui a été reconnu comme étant en voie de disparition. Et qui a été défendu pour ça. Après, il y a eu toutes les races locales qui ont eu des syndicats pour les défendre. Mais ça a été le premier cochon qui a été déjà reconnu comme étant une race à part. Et après, qui a été défendu, car c'était une des premières victimes de l'industrialisation. Mais je dirais quand même le veau Villard-de-Lans, parce que je suis attaché à cette région.
Ouais, je crois qu'il en reste 150, faut pas toutes les manger non plus, les Villards, je crois que c'est la plus en danger.
Non, mais alors ça, c'est un bon point, c'est que un de nos rôles, je pense, en tant que restaurateur, c'est de contribuer à recréer des filières.
Oui.
C'est en mangeant du veau de Villard-de-Lans ou
des
de la vache armoricaine,
exactement,
qu'on réussit à relancer ces races. Là, j'ai un exemple, par exemple, en port de Bayeux, il y a un gars qui fait du port de Bayeux bio, Wilfried Léger, il a assez de porc pour tout le monde, il en a très peu par an, il en fait une quarantaine. Et c'est le seul qui fait ça en France. Et là, il y a un gars qui était avec lui en stage et qui s'installe en port de Bayeux. Et il savait très bien qu'en s'installant, il allait avoir assez de demandes pour pouvoir s'installer. Mmh. Et donc, du coup, ça lui a permis de s'installer sur ce mode de production alternatif, autosuffisant, plein air intégral.
C'est hyper vertueux, du
coup. Qu'il sait qu'il y a des restaurateurs derrière qui vont suivre.
Ça nous met un peu en appétit,
ouais,
tout ça, non?
Ça nous met en appétit. Moi, j'ai faim, personnellement. Ouais. Et justement, on va vous faire découvrir un nouveau stand qui vient d'arriver à Grande Contrôle. Ça s'appelle Cantine Braise. Elle fait des galettes bio archi-locales pendant qu'on écoute le morceau que tu as choisi, Pierre.
Ouais.
T'as choisi quoi?
J'ai choisi une chanson qu'on écoute vachement en ce moment, parce qu'on est un peu addict des chansons qui donnent du rythme. Faut comprendre que nous, comme c'est tout petit, c'est pas mal chorégraphié. Donc on écoute souvent du gros son le matin pour se réveiller aussi. Donc c'est Godfra qu'on a choisi.
Oh là là, les galettes. Magnifique.
Sur ce son. Gentil. Bonjour France.
Bonjour.
Vous êtes nouvelle ici à Grande Contrôle?
Oui, depuis la réouverture, 8 janvier. Oui.
C'est ça. Et alors, vous proposez un stand de galettes bio?
Absolument. Recettes bretonnes traditionnelles avec des fournisseurs bretons pour tout ce qui est charcuterie. Et on travaille exclusivement en bio, les légumes en producteurs locaux. Voilà.
Et la farine est une farine de sarrasin locale?
Je vous ai amené un paquet de chaque de farine de froment et de sarrasin local.
Parce qu'il faut savoir que bon nombre de galettes de blé noir qui sont proposées en France sont faites à du sarrasin qui vient de Pologne, d'Ukraine.
Absolument, d'Europe de l'Est. C'est vraiment de la farine faite à la meule et avec des productions locales. Et voilà.
Donc on est dans le thème de l'émission.
Vous êtes bretonne?
Je suis pas bretonne, je vais pas vous mentir. Je suis née à Paris 12. Seulement, la vie a fait que j'ai vécu une trentaine d'années en Bretagne. Et que j'ai fait des crêpes en Bretagne. À côté de Brest, tous mes enfants sont nés à Brest.
J'ai fait
des crêpes à Paris pour commencer. Et après, on est parti s'installer en Bretagne. Et j'ai fait des crêpes en Bretagne aussi. Donc la recette vient de Bretagne.
Mais pourquoi vous êtes revenue à Paris?
La vie a fait aussi que je revienne à Paris.
D'accord. Vous êtes bretonne d'adoption. Alors.
Voilà, bretonne. Pour l'instant, j'ai passé autant de temps de ma vie à Paris qu'en Bretagne.
Et Elvira vient de me passer une galette.
Oui.
Vous nous avez apporté deux recettes?
Je vous ai apporté quatre recettes, en fait, les quatre spécialités qu'on fait.
D'accord.
On leur a donné les quatre noms des départements bretons. Donc, c'est le.
Alors
donc,
quiz.
Là, vas-y.
Alors, les quatre noms des départements bretons. Commencez pas par me dire Loire-Atlantique.
Finistère, Morbihan.
Et Ille-et-Vilaine.
Vous avez toutes, voilà.
Pas mal.
Super. Vous mangez, c'est la Morbihan.
Ça, c'est Florent qui mange la Morbihan.
Dedans, voilà, exactement.
De l'andouille.
De l'andouille de Guéméné. Oui. Alors, l'andouille de Guéméné, de Monsieur Denoual, une entreprise locale là-bas, bien sûr, du Morbihan, de Guingamp, qui travaille exclusivement avec des cochons bretons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cochons d'importation. Et cette andouille a eu le prix des saveurs 5 ans de suite, c'est-à-dire depuis 2015. Alors, donc, normalement, elle est bonne.
D'accord. Et moi, je mange laquelle?
Alors, vous, avec les petits légumes, vous mangez l'ille-et-vilaine.
Ah oui.
Alors, ça, ce sont des légumes racines. Mm-hmm. Parce qu'on travaille aussi avec des produits qui sont de saison, bien sûr. Donc, en ce moment, les légumes, c'est pas la tomate espagnole.
Non.
Voilà. C'est le panais, c'est la carotte, c'est le céleri. Ouais. On travaille aussi avec le chou-fleur, parce qu'il vient de Bretagne. Voilà. Donc, on travaille
et
avec
le
les légumes. Pas dans celle-ci. Dans celle-ci, vous avez du chèvre et vous avez du miel.
C'est ça.
Alors, le miel vient de Plouescat. C'est un petit village où on habitait juste à côté.
D'accord.
Et en fait, il a une particularité, le monsieur a ses ruches sur les plages. Donc c'est un miel, quand vous le mangez, il est iodé. Mmh. Exactement.
C'est un miel d'algues.
Un miel, voilà, quasiment. Oui, quasiment.
Et de salicorne.
Voilà, c'est ça. Oui, la salicorne, moi j'allais à la pêche à la salicorne avec les enfants et on mangeait ça directement comme ça dans le sable.
Ça me rappelle des souvenirs d'enfance.
Bon. C'est super bon, c'est salé, c'est top.
Et vous entendez comme ça croustille?
Vous allez faire le truc à la mode, là, vous savez, on entend manger ça.
Ah oui.
Ouais, France, vous avez passé beaucoup de temps à partir en quête des meilleurs producteurs. Vous les connaissiez tous.
Beaucoup de temps, oui et non, parce qu'en fait, j'ai tous mes contacts là-bas. Donc, c'est assez facile. Par exemple, le miel, je savais déjà où le trouver. Quand je suis revenue à Paris, j'ai eu que deux ou trois coups de fil à passer. Alors, des fois, pas évident, parce que c'est vrai qu'il y a des producteurs comme ça qui font des super produits, mais qui revendent pas directement ou qui sont mal distribués sur Paris. En fait, ils vendent en local, quoi. Après, je les ai convaincus un peu, et puis voilà, on a mis des systèmes comme ça de livraison en route, et puis, mais sinon, tous les producteurs locaux, je les connaissais. Des fois, c'est les parents de mes enfants, quoi.
Ouais,
donc, je les avais en direct.
Et celle qu'on mange, nous, avec Pierre, c'est quoi?
Alors, vous avez la Finistère avec la truite de mer fumée. Il y a une crème au curcuma dedans.
Ça, c'est top.
Et c'est très antioxydant en plus.
Une fondue de poireau, oui, c'est ça. Et vous, la dernière, 1, 2, 3, 4, non.
Elle a disparu.
C'est moi qui l'ai, je ne mange pas. Donc celle-là, c'est la Côte d'Armor. C'est avec la saucisse des Côtes d'Armor, faite aussi par de Noël.
Ah ouais.
Vous voulez, je vous passe
ça.
Allez, la saucisse.
Pierre et Florent, vous avez goûté?
Oui,
c'est excellent.
Et celle-ci est faite à la Côte d'Armor.
Tu veux récupérer quoi, Pierre?
Le coup du miel iodé, ça m'intrigue.
Le miel iodé,
super. Et la saucisse, pareil, Côte d'Armor.
Quelqu'un veut de l'andouille?
Merci France. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Merci. Un bon appétit à vous.
Voilà.
Merci.
Bon, et en Bretagne, on dit Kenavo?
Kenavo.
Charles,
à bientôt.
Merci. C'est un beau produit, une belle galette. Je trouve quand c'est bien fait comme ça. Alors, tu trouves comment?
J'ai pas l'iode, mais j'ai le miel. Hein. C'est un super beau miel. Le côté iodé du truc, j'ai pas. Mais ça marche bien avec le chèvre, les petits légumes. Non, franchement, puis c'est joli. Elle a mis des petites herbes.
Ouais, c'est joli comme tout. Ouais. Pierre, toi, au-delà de la confection et de l'approvisionnement en fromage dit classique, auquel on est assez habitué en France, tu t'es pris de passion pour la fermentation notamment pour les laits fermentés. Ouais. C'est que tu passes beaucoup de temps à voyager, à faire des recherches, à enquêter pour découvrir de nouvelles recettes et de nouveaux savoir-faire. Pas nouveaux d'ailleurs, plutôt très anciens.
Ouais, ils sont plutôt anciens.
Très anciens et très patrimoniaux.
Ouais.
Ça fait partie de ton métier aussi, ça, cette quête-là.
Bah, c'est une dimension que j'ai donnée à mon métier. C'est vrai que le luxe que j'ai aujourd'hui avec la laiterie, c'est qu'on en vit bien, je commence à retrouver un petit peu de temps. Et moi, je suis prof à côté pour former des fromagers, pour former des crémiers fromagers. Et donc, mine de rien, j'ai une voix aussi qui a un peu d'écho aujourd'hui dans la profession, dès que je vais trouver un produit ou le mettre en avant. Et ça a commencé d'abord avec le yaourt, qui était le premier lait fermenté le plus accessible. Et ensuite, qu'on a dû décliner, parce qu'on est dans un quartier où les gens sont venus demander ce qu'on faisait pour le ramadan, notamment. Donc, on a dû commencer à se poser ces questions-là. Et en fait, à chaque fois qu'on a eu
parce
une recette...
Parce que pendant le ramadan, on peut rompre le jeûne avec du lait fermenté.
Tu rompes le jeûne, en fait, avec du leben, donc ouais. Un lait fermenté battu, en fait, et écrémé.
Leben, à ne pas confondre avec labné, c'est pas la même chose.
Voilà, c'est pas la même chose. Et le leben, en fait, c'est un dérivé du rayeb. Le rayeb, c'est un lait caillé.
En Afrique du Nord.
Ouais. Et en fait, nous, quand on a cherché ces recettes-là, les premières process qu'on a eues, c'est les process industriels de Danone qui est en train de sortir tous ces laits fermentés à la con. Et on s'est dit, on n'a jamais bossé comme ça. Moi, quand j'ai voulu apprendre à faire du fromage, j'ai une base de formation, mais j'ai appris avec des gens qui m'ont montré les gestes, qui m'ont montré tout ça. Donc là, on est parti avec l'université d'Alger. Alors c'est rigolo, parce qu'on a un petit monde les fromagers. Qu'on commençait à nous trouver des recettes. On a eu une arrivée de ferments illégales.
Mais non.
Notamment,
en voyant en direct d'Alger.
Mais après, on fait tester, tu sais. On a ça. Ouais, c'est que la dernière fois, j'ai ramené des souches de kéfir. Je voyage beaucoup avec des souches de ferment, ce qui est absolument pas légal. Et après, on les met en culture, on les teste. Hein, si elles n'ont pas de problème dedans, on les utilise. Et donc, ça a commencé avec cette histoire de l'ébène. Ouais, c'est un gros carton pour nous pendant le ramadan, quoi. Parce que tout le monde va rentrer le jeûne avec ça.
Oui, tu passes quoi comme volume?
200 litres semaine pendant le ramadan. Alors après, ça se calme. Mais puis surtout, on a tous les gens qui viennent de partout pour boire notre l'ébène. Et sur le raïb aussi. Et après, c'est ça qui nous a emmenés au Liban. Moi, en fait, il y a un moment, j'y comprenais plus rien entre l'ébène, raïb, labné. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à partir. À chaque fois que je pars, je tombe sur des trucs de fou qui changent un peu de notre yaourt traditionnel, même si il est très, très bon.
D'autant plus que la tradition de fermentation du lait, elle est assez universelle. Il y a beaucoup de cultures et de pays où ça se pratique.
Fromage. Ouais. Et il y a ce truc, en France, on est très, très bon sur le fromage. On a vraiment su maintenir un terroir, hein, malgré des années de politique agricole un peu catastrophique. On a quand même réussi à maintenir ce terroir qui est là. Et il y a tous ces autres terroirs en danger, au loin, dont personne ne parle.
Lesquels, par exemple ?
Je pense notamment à tout le travail que j'ai pu voir autour du Liban, de la Syrie, de maintien des professions de fromager. Moi, je vais là-bas et j'interviens dans des écoles pour expliquer que être fromager, c'est cool. Et je suis face à des gamins pour lesquels j'ai la pire des professions du monde, quoi. Et quand ils voient qu'on a un compte Instagram, qu'on parle de nous, qu'on gagne notre vie, ils ont envie d'être fromager. Mais sinon, plus personne veut faire du fromage là-bas, il n'y a pas assez de lait. Bon, en plus, il y a des situations compliquées au niveau politique.
Bien sûr. Tu retournes bientôt au Liban ?
Ouais. Je retourne.
Pour y faire quoi ?
Alors, pour accompagner sur en fait une association qui est à côté des camps de réfugiés syriens et sur la formation justement de gens pour aller travailler dans les fromageries, notamment les femmes. Ouais. Voilà.
Comme si c'était rien du tout, tu sais.
Oui, c'est ça, c'est dingue.
Je passe mon temps à faire du fromage puis à manger là-bas. Je vais être bien.
Toi, Florent, tu voyages aussi beaucoup. Alors, en France ?
En France, ouais, plutôt.
Toi, tu as choisi le terroir national, on va dire. Tu vas jamais à l'étranger
Non, on va jamais à l'étranger. C'est pas par dogmatisme. C'est juste qu'il y a tellement déjà de choses pour nous dans le pays. C'est déjà un terrain de jeu qui est hyper large. Et après, c'est plus facile aussi au niveau de la langue et pour le transport, pour tout un tas de choses. Donc.
Et tu disais hors micro que ton impact en CO2 au niveau national était finalement sensiblement le même que du zéro kilomètre. C'est ça.
Alors ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une étude en effet qui a été mandatée par Slow Food International et un cabinet qui s'appelle Indaco 2 et qui est venu chez nous pour auditer tout ce qu'on faisait. Et à la fin de l'audit, une de leurs conclusions, c'est qu'en effet, entre le zéro kilomètre et l'approche nationale qu'on a, ça a un très faible impact au regard, par exemple, de la consommation de bœuf ou la manière dont les produits sont faits. Le plus gros impact vient de la consommation de bœuf, de viande et des modes d'élevage attenants. Et pas, moi j'étais surpris, hein, je pense honnêtement, je pensais pas. Ça n'enlève pas moi la conviction que j'ai que c'est bien de travailler de la manière la plus locale possible.
Après à Paris c'est compliqué.
Et je trouve pas que ça a un énorme intérêt.
Pourquoi c'est si compliqué à Paris?
Bah,
il y a bien des terres
en
Île-de-France,
c'est une grosse ville, donc c'est compliqué.
Mais en Île-de-France, il y a des terres agricoles.
C'est des terres céréalières, c'est des terres à culture aidée, c'est pas des terres de pâturage, c'est des terres d'intensification. Hein. Donc moi, quand j'étais visité pour le lait en Île-de-France, j'en chialais. Hein. Je voulais pas de vaches qui bouffent de l'ensilage. Tu vas vers les appellations Brie de Meaux, Brie de Melun, c'est des bêtes qui crèvent sous des hangars. Donc c'est non, il y a un moment, faut trancher. Tant qu'il y aura pas de, nous, c'est un truc qu'on nous reproche souvent à Étrie, de dire vous êtes pas locaux. Alors encore une
une fois, t'es là, bah oui, mais bon, on fait quand même des trucs. Hein. Et du coup, tant qu'il y a pas de volonté politique non plus pour relocaliser l'économie hein, aujourd'hui et pour relocaliser notamment les productions et tout. Ça commence un peu sur le légume, bah, sur l'élevage, on n'y est pas, hein, clairement. Donc,
Même en maraîchage, nous, on a longtemps cherché des maraîchers avec qui travailler en Île-de-France et finalement, les maraîchers en bio sont quand même beaucoup structurés autour des AMAP et très peu sont investis aussi de sujets comme les semences paysannes qui sont importants pour nous. Donc nous, on n'a jamais trouvé chaussure à notre pied.
Non, puis il y a un truc aussi, c'est qu'on a beau être à Paris, effectivement, nous, cette attention sur le local, l'écologie et tout. Alors, on l'a pas sur nos approvisionnements en lait. Après, on a plein d'attentions écologiques sur l'utilisation des consignes, de nos produits de nettoyage, de nos protocoles.
T'as réduit totalement les emballages plastiques, toi, par exemple.
Oui, nous, il y a très peu de choses en plastique chez nous. On a été les premiers aussi à se balancer sur le sujet du pot vert. On lave 1000 pots tous les week-ends pour les resservir. On croise des pots en verre qui ont 2 ans. Avec une petite émotion, ils ont encore la même étiquette et tout.
Moi, je les garde chez moi, je mets des épices dedans.
Ben oui.
Tu peux les consigner?
Ouais, nous, ils sont consignés, Et du coup, en fait, Paris, il y a tellement de gens qu'on sert aussi à faire vivre toute cette France. Moi, j'ai plein de potes qui, bah, même je pense à Jean-Baptiste qui a 150 brebis à Aramitz. Si nous, on vient pas, et si il fait pas le losso irati qu'il vend ailleurs, il vivra pas là-bas. Faut aussi à un moment se détendre sur les sujets du local. C'est que le local à Paris, il y en a peu. Et par contre, Paris fait vivre énormément de super systèmes en France.
Ouais, complètement.
Vos métiers à l'un à l'autre sont hyper valeureux, hyper vertueux, mais ils sont aussi... lourd, physiquement, difficile. On parlait de ça tout à l'heure un peu hors micro.
Ouais.
Toi, t'aimes bien avoir froid, t'aimes bien porter des meules qui pèsent 1000 kilos, etc. Toi, Florent, personnellement, c'est pas si physique que ça parce que t'es pas en cuisine, mais ce sont quand même des choix de filière hyper engageantes physiquement.
Devenir restaurateur, c'est quand même.
Ouais, devenir restaurateur, c'est des soucis.
En cuisine, ils ont un boulot.
C'est chaud, quoi, en cuisine.
Physiquement, c'est hyper dur.
Et c'est chaud dans un labo de fromager, quoi. Ouais, après, tu portes, tu décharges 600 litres de lait.
Ouais.
Non, parce que c'est un job qui est physique, ça c'est clair, et c'est aussi ce qu'on aime. Ça nous permet de pouvoir continuer à manger du fromage et que ça se voit moins, même mine de rien, c'est important.
C'est vrai.
Ouais, tu les repères, les fromages riches.
On n'a pas l'abonnement
riches,
à la salle de sport.
Voilà,
t'as
plus besoin. Et puis en fait, moi, cette fatigue, j'aime bien. C'est-à-dire que avant, j'ai eu plein d'autres taf où j'étais fatigué de trucs qui n'étaient pas palpables. Là, je suis fatigué parce que j'ai porté des seaux de lait, parce que j'ai moulé du fromage, parce que je me suis levé tôt. Et du coup, c'est un truc un peu sain. Et d'ailleurs, que les gens viennent chercher, hein, parce que sur l'introduction, c'était encore une énième reconversion de quelqu'un qui était en banque et couvre un restaurant. Et c'est vrai qu'on en entend vachement des histoires de reconversion. Et du coup, je comprends ce que les gens viennent chercher aussi. Nous, moi, dans mon équipe de 10 personnes, il n'y en a pas un qui vient du monde du fromage, de la formation fromagère. C'est des anciens journalistes, des anciens profs, des anciens chargés de com. Et ce qu'ils veulent, bah, c'est faire quelque chose de pratique dont tu vois le résultat.
De
ça,
leur
c'est un
main.
Truc. Ouais.
Bah, mais il y a un impact immédiat.
Oui, mais assez valorisant parce qu'il y a peu de gens qui se reconvertissent dans des métiers.
Tout dépend après comment toi tu valorises les gens, tu sais. C'est vrai que nous, on a la chance d'être valorisés. On goûte un de nos fromages ici, on dit, ouais, il est chouette, on entend parler et tout. Mais d'un autre côté, dans mon équipe, quand on goûte les produits, moi, c'est vraiment quelque chose que je leur dis aussi. On a les clients qui nous le disent. Donc, il y a vraiment ce truc. Eux, ils sont très valorisés par ça, hein, par le fait d'avoir fait et que tous les produits qui sont sur la table sortent de leurs mains.
Mais ça veut dire que ça donne, ces métiers-là donnent beaucoup envie, notamment à des personnes qui sont en recherche de sens. Est-ce que les jeunes, ça leur donne vachement envie?
Alors après, le piège, c'est qu'il y a un côté un peu glamour, tu vois, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais, les photos qu'on met où on est déguisé en léopard le jour du 31 pour faire la... C'est pas, je suis pas en léopard tous les matins. J'ai des matins, des fois, qui sont chiants. Bah non, bah, ça dépend. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc. On vend aussi un peu du rêve parce qu'il le faut, parce que les gens, ça les intrigue et parce que, en fait, on est très vite du rêve vu qu'on est des choses qui sont pas fréquentes. Après, on reste sur des réalités très basiques, hein. Moi, la moitié de mon taf, c'est de faire de la vaisselle et du ménage, donc d'aspirer les sols, de frotter des seaux, d'en foutre partout. Alors les jeunes, bah si on en a nous qui viennent, on a un partenariat avec un lycée dans le 13 qui nous envoie souvent des stagiaires, et c'est 1 sur 2. Après nous, on fait en sorte, parce qu'on est aussi, on a ce truc dans l'artisanat de former, donc on fait en sorte de se dire mais si, t'inquiète, on va te montrer que ça va te plaire. Ça marche pas toujours.
Toi, Florent, tu as des jeunes en apprentissage ou...
On a toujours un apprenti en cuisine au résistant, à l'avant-poste. Non, on a eu des fortunes diverses. Mais je pense que c'est pas juste lié à la jeunesse. On a beaucoup de reconvertis qui se rendent compte au bout de quelques mois en cuisine que ça leur convient pas, le rythme leur convient pas. Alors que même nous, chez nous, on se fait fort de respecter les horaires strictement. Bon, bah voilà, c'est un métier, t'es debout toute la journée. Tu bosses de temps en temps la nuit, donc c'est quand même difficile. Mais après, je reviens sur ce que tu disais aussi. Nous, on voit pas mal aussi dans le milieu agricole de la casse en termes de reconversion, hein, notamment en maraîchage. Hein. Il y a beaucoup de néo-ruraux qui s'installent en maraîchage. C'est un métier qui paraît sympa, t'es avec les plantes et tout, mais
c'est
derrière,
c'est le pire des jobs maraîchers.
C'est probablement le job qui paye le moins et c'est hyper dur, quoi. C'est derrière, tous les jours, il y a du boulot à faire qui est pas forcément...
Ouais, il faudra raconter un peu ces histoires d'échecs aussi, bah, en fait, pas uniquement les success stories. Ouais. Est-ce qu'en cuisine, vous écoutez un peu de musique ?
Ouais, ouais, ils écoutent tout le temps de la musique. Plus résistant qu'à l'avant-poste d'ailleurs.
Stromae un peu ou pas ?
Ouais, j'adore.
T'as choisi quoi comme morceau ?
Humain à l'eau.
Moi, humain, papou. Primaire et pas vous. Si évoluer, c'est ça. Moi, j'évolue pas pour un sou. Moi, parler de glacier. Si couler, moi, fâché. Je saurai où te chercher quand, comme moi, tu seras perché. Mais oui, oui, retiens-moi bien. Piercing, tout comme les tiens. Le même trou qu'à la couche d'ozone. Je te le ferai. Allez, tu peignes. Mais vol, vol, voyage. Fais-les tes reportages. Mes potes collent. Crache loin dans votre bol de potage. Dans votre monde de Gotha. Moi, je n'en voulais pas. Évidemment que tu crois, mais on se tait quand on ne sait pas. Ta bouche, trop bêta, écoute, la nature est là. Ne vous étonnez pas, ça pue, pue le coup d'état. Modernisé, pourquoi tu me parles mal? Je respecte les pygmées, donc respecte les Maasai. Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Je te l'explique encore, moi devoir définir. Toi pas comprendre, pas parler ou plutôt réfléchir. Le pauvre il faut l'aider, son pote il faut l'aider. Donc déléguer au délégué, qui déléguera au délégué. Imbécile tel, même si tel, trop risqué d'être écouté. Même à telle ou telle heure, c'est un euphémisme. Oui je t'idéalise, la culture de la bêtise. De ça oui je suis raciste. Ça fait 4 fois que ton hélico passe, tout le village a les boules. Passez, passez, mais faites gaffe, ha, si un jour il s'écroule. Y'a pas de gang ou de police, non ce n'est pas la zone ici. Les jaguars ne roulent pas, chez moi c'est l'Amazonie. Où c'était, pour ce qu'il en reste, mais garde les tes arbustes. Touche encore un poil à ma forêt, ton pénis j'en ferai des bûches. Toi et toutes tes perruches, t'es Christophe Columbus. Trop tard pour les excuses, au nom du déluge. 3G, 4G ou déchets, oubliez. J'ai 8, j'ai 20 ou j'ai chié et j'ai bien caché. Vous décidez de ça à notre insu, moi aussi j'aurais aimé être entendu. Donc arrêtez de suite, vous êtes stupides ou quoi? Les études ne donnent aucune science infuse.
C'était Humain à l'eau de Stromae, qui est une musique qui te tient à cœur, Florent.
Ouais, ouais, enfin j'aime beaucoup Stromae, hein. C'est très mainstream, mais j'adore. Et puis,
c'est bien mainstream aussi.
Ouais, ouais, bah, c'est très bien. Et je trouve que c'est une chanson qui réunit un peu tout, qui est assez engagée et qui en même temps a pas mal de rythme. Enfin, je l'écoutais beaucoup en tournée au tout début.
Tu as employé le mot d'engagement, c'est un peu un mot qui est en filigrane depuis le début de l'émission. Engagement vis-à-vis des producteurs, engagement par rapport à sa propre vie, engagement par rapport aux gens qu'on fait bosser. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait continuer à faire vos métiers sans être engagé? Ou est-ce que ça va plus être possible?
Bah, allez, vas-y.
Florent, allez, lance-toi.
J'espère que ce sera de moins en moins possible. Après, faut un monde pour tout le monde. Hein. Non, moi, je suis pas non plus tyrannique sur le sujet. Il m'arrive de partir en week-end avec des copains et d'être obligé de manger des trucs qui me...
De manger des camemberts présidents.
Voilà, exactement. Mais franchement, je vais pas être le rouleau de service. Mais néanmoins, je pense que de plus en plus, les gens sont en demande de ça. Et que de fait... Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le port de Bayeux, c'est que la demande des gens va créer l'offre. Et c'est chaque citoyen qui a les moyens de faire bouger les choses. Ça bougera pas d'en haut, ça bougera de chaque citoyen qui prend des décisions. Et en fonction de ses décisions et de ses actes d'achat, eh ben, les filières changeront, que ce soit en restauration, en agriculture ou pour tout le reste.
Ce qu'on choisit de manger, c'est aussi important que le bulletin qu'on met dans l'urne, si tant est qu'on puisse choisir ce qu'on mange.
Ouais. Après, ouais, ce truc d'engagement, c'est que finalement, nous, c'est notre carburant. C'est un truc, ouais. Des fois, il y a pas mal de gens qui me disent, mais comment tu fais? Parce qu'on carbure, on fait pas mal de trucs et tout. Et le fait de jamais rien lâcher, alors c'est chiant des fois, hein, on aimerait bien se fourvoyer. Là, l'autre jour, bah, il y a le salon du fromage dans 3 semaines où, voilà, on devrait vendre du Brie à Savarin truffé. On gagnerait vachement plus de thunes, quoi. Et on calculait que ne pas vendre de truffes à l'année, nous, c'était une perte de 80 000 balles sur la laiterie. Mmh. Et quand on est là avec nos associés, nous, moi, j'ai pas de mal à le dire, on gagne 1600 balles par mois. Quand on se disait ça, on était là, mais imaginez ces milliers de petits Brie à Savarin qu'on pourrait vendre.
Ce serait pas compliqué à faire.
Oh, mais ce serait pas, tu vois, tu les achètes 5 balles, tu les vends 14. Et en fait, malgré tout cet engagement, nous, c'est ça notre énergie. C'est qu'on se le pose tout le temps. C'est aussi ça qui fait qu'on est intéressant et qu'on a des vies intéressantes et ce qui fait qu'on transmet à nos clients. Je voulais juste rebondir vite fait. Alors, on parlait de ta carte où tu avais le nom des producteurs. Nous, on a la même chose sur nos étiquettes. Malgré tout, je pense que mes clients s'en battent pas mal et que s'ils viennent chez nous, c'est pas parce qu'on est la laiterie de Paris, qu'on est les gens qui payent bien le lait, c'est parce qu'on est le commerce de quartier et qu'on a aussi cette dimension-là. Et en fait, c'est ça qui est
moi,
dur.
C'est normal de mettre le sur les pots de...
Mais nous-mêmes, il y a le prix du lait qu'on paye qui est affiché dans la boutique, on affiche tout. Mais je pense que les consommateurs ne sont pas tout le temps dans cette démarche d'engagement parce que c'est hyper dur.
Il y en a qui ne s'intéressent pas forcément.
Et puis même, c'est dur. Tu vois, moi, l'autre jour, j'étais acheté des bières chez un spécialiste de la bière, mais j'en avais ras-le-bol. Je voulais juste des bières. Tu sais, des fois, tu as juste envie des bières. Tu n'as pas envie du storytelling de 10 bières différentes. Et donc, je pense que ouais, professionnellement, il faut continuer à maintenir cet engagement. Et après, comme aujourd'hui, c'est nouveau, il y a des exemples qui marchent et il y a des exemples qui intéressent. On parle de nous. Donc, ça pousse aussi le monde.
Je suis complètement d'accord, on le fait beaucoup pour nous quand même.
Ouais, non mais c'est clair.
Est-ce qu'on va revenir aux fondamentaux? Avant tout, il faut que ce soit bon.
Oui. Voilà. Et le fait que ce soit en plus sain, écolo, bien payé, bien pensé, parce que nous, on est aussi une entreprise sociale et solidaire. On est aussi ce lieu qui nous permet d'embaucher des gens, d'être un lieu non jugeant, d'être un lieu où on peut s'éclater indépendamment de qui on est, de quel sexe on est. On a aussi tout ça nous, derrière notre boîte. Donc en fait, on a un engagement perpétuel et finalement, c'est ça qui fait qu'on se lève le matin, quoi, plus que les thunes. Mais bon.
Finalement, manger, c'est un acte un peu militant. Est-ce que votre engagement est politique ?
Chaud, ouais.
chaud, bah justement.
Ouais,
c'est chaud.
Ouais.
C'est forcément politique. C'est pas politique au sens parti politique. C'est politique au sens on s'engage dans la vie de la cité. Et le militantisme, c'est une forme de politique. Hein, et je pense que c'est complètement politique, enfin, moi, en ce qui me concerne.
Nous, notre militantisme, il n'est pas articulé aujourd'hui autour d'un parti politique. Non. Ou d'un. Après, c'est aussi des choses auxquelles on réfléchit parfois, mais qui sont un peu loin de nos réalités actuelles.
Tu te définis comme un paysan de gauche?
J'ai dit ça?
Ouais.
Oh non, mais c'est le gars de Télérama. Ouais, bah oui, peut-être, forcément, parce que aujourd'hui, c'est dur de se dire, je peux être entrepreneur, mais pas être de droite, je peux embaucher des gens et pas me dire que les conventions collectives salariales, c'est de la merde. Enfin, donc, malgré tout, non, oui, effectivement, moi, je suis quelqu'un à gauche, plus perdu en ce moment dans l'ordre politique actuel, qui fait que j'ai pas de choses vers lesquelles. Après, on intrigue, notamment en ces temps municipaux et même le monde politique, on les intrigue, nous, ce qu'on est en train de faire et notre initiative. Et donc, du coup, elle est compliquée cette question. Parce qu'on nous a déjà proposé des choses et nous, à chaque fois, déjà, on est débordés. Aujourd'hui,
on n'a qu'à repartir pour une heure d'émission. Hein.
Ouais, on pourrait
faire ça. On fait ça ou est-ce qu'on finit en douceur avec une petite note sucrée?
Moi, j'ai plein de choses à vous faire goûter.
Allez.
Alors, deux trucs. On a des cuillères ou on a encore des...
On recycle
la cuillère. Alors, ça, c'est un yaourt vanille gousse. Je disais du mal de la vanille tout à l'heure, voilà. Alors, en plus, on a super peur parce qu'on les présente au concours général agricole et nous, on met pas d'arôme. Et du coup, ils vont être jugés au milieu de 10 yaourts pleins d'arômes et c'est peu sucré. Donc, on sait qu'on va.
C'est sucré comment? Sucre de canne
bio
raffiné.
Et on est à 4%, donc c'est
douceur.
Ridicule. Mais le problème, c'est qu'il va se faire défalquer à côté des autres yaourts. Les gens, ils vont pas l'aimer. Et, on y croit. Ça, c'est des crèmes au chocolat.
Oh là là, la texture.
Ouais. Alors, il y a le mot crème dedans et.
C'est dense.
Oui. Crème, œufs, chocolat, lait, un chocolat 100%
qui vient d'où
bio.
Tu vas aimer Samina.
Ah ouais.
Oh là là.
Alors mon chocolat c'est honteux. Il vient d'un magasin bio parce que je n'arrive pas à sourcer sur tout aujourd'hui. Donc on prend le 100% bio en se rajoutant ce petit label là.
quel bonheur de finir en douceur comme ça.
L'émission touche déjà à sa fin. Merci à vous deux, les garçons.
Merci beaucoup.
Oui, merci. Merci à Mathilde Giraud, Denis Lega et Elise de Grande Contrôle pour votre confiance. Pierre-Alexandre Perrin et Frédéric Horry à la console et à la photo.
Venez
merci
boire un
les
coup.
Mecs.
Chaud.
Chaud.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.